bonjour à tous et merci de nous retrouver pour Blasio Alto Astral sur Aligre FM 93.1. Gilles Bourgarel pour vous servir. Tâchez de vous être agréable. Je suis en compagnie de l'association Autre Brésil ce matin, en compagnie de Nawal Karoum, bonjour Nawal,
bonjour.
Et de Fred Lira, bonjour, merci de la présence. On vous a demandé de participer à cette émission parce que là a débuté hier donc la 21e édition du festival Brésil au mouvement que propose l'association Autre Brésil. On vous suit, on vous soutient, on vous accompagne. On aimerait vous donner à chaque fois plus d'espace. Donc je vous propose qu'on décortique le programme de cette 21e édition ensemble. On a une heure pour le faire, mais je vais faire ma tâche, comme on dit au Brésil. Je vais rendre hommage à un grand artiste qui nous a quitté samedi, Hermeto Pessoa, comme j'ai fait la semaine d'avant lorsque Ângela Rorró a tiré sa révérence. On a commencé cette émission par un hommage à Ângela Rorró, mais comment pourrait-il en être autrement? Je veux dire, je le fais pas forcément de gaieté de cœur, mais je pense que c'est vraiment la moindre des choses que je pourrais faire. Hermeto Pessoa était un multi-instrumentiste complètement génial. Bon, je pense qu'il a eu une belle vie bien remplie. Il est mort un petit peu âgé. Hermeto Pessoa et Fred Lira, je vous ai demandé en fait de concocter la playlist de cette émission. Donc, alors je vous avais dit, voilà, on va commencer par un hommage à Hermeto Pessoa. Et c'est vous qui avez choisi les deux premiers morceaux qu'on va écouter maintenant. Est-ce que vous pouvez nous donner leur titre?
Les deux à la fois?
Non, on va commencer par le premier, donc.
Okay. Viajando pelo Brasil, c'est-à-dire un voyageant par le Brésil, autour du Brésil.
Alors c'est ça. Alors Hermeto Pessoa, c'est 70 ans de carrière, il est mort à 89 ans samedi dernier. Et puis il y a quelque chose, alors il a enregistré avec Miles Davis, il a eu le Grammy Latino du meilleur album jazz en 2024, c'était pour un disque qui s'appelle Pra Você Ilza, qu'il a dédié à sa femme.
Ouais, qui est morte à 25 ans.
Qui était mort avant.
En 2099 ou quelque chose comme ça.
Voilà, avec qui ils ont eu 6 enfants, 40 ans de mariage avec Ilza. Je trouve que c'est vraiment une super belle histoire. C'est quelqu'un de complètement inclassable. Nous commençons cette émission par notre hommage à Hermeto Pessoa. We'll be right back. Nous sommes ensemble pour notre heure de musique brésilienne hebdomadaire et obligatoire. C'est Brasil Alto Astral sur Aligre FM 93,1 en direct jusqu'à midi avec Nawal Karoum et Fred Lira de l'association Autre Brésil. On va détailler le programme de cette 21e édition. Alors Fred, est-ce que vous voulez bien désannoncer ce morceau que vous avez sélectionné?
Oui, c'est Viajando pelo Brasil. C'est le morceau qui ouvre l'album Festa dos Deuses de 92 d'Hermeto Pascoal. On a c'est le dernier morceau avec le groupe classique qu'il avait, avec Carlos Malta au saxophone, Pernambuco et Fab Pascoal aux percussions, Marcio Bahia à la batterie, Jovino Santos au piano et aussi Tibério Zuarga à la contrebasse.
Et ah mais je suis épaté, vous êtes une encyclopédie.
Ça je connais bien, Hermeto. Et pendant longtemps c'était mon morceau favori. Donc
ah oui,
c'est pour ça que j'ai suggéré de le jouer aujourd'hui.
Alors vous êtes aussi musicologue,
oui,
Fred.
C'est ça, ouais.
Alors vous nous avez contacté, alors c'est parfait, vous nous avez contacté une playlist vraiment très 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 pointue et j'ai envie de dire un peu alternative aux grands circuits commerciaux. Alors là on reconnaît un petit peu l'esprit de Autre Brésil. On va présenter la vocation de votre association. C'est Brasil Alto Astral sur Aligre FM en direct jusqu'à midi. Alors, Hermeto Pascoal n'est pas très connu en France et honnêtement, au Brésil, il ne passe pas énormément à la radio et à la télévision. Hein. Je voudrais vous faire lecture de l'ouvrage « Le son du Brésil » aux éditions Lusophone, dont il existe une version en français. Un des multi-instrumentistes les plus pittoresques du Brésil est Hermeto Pascoal, né dans l'Alagoas, dans le nord-est du Brésil. Quand il joue, Pascoal offre un drôle de tableau. Albinos avec une longue barbe blanche fournie et une crinière de cheveux blancs très lumineux. Il a tendance à sauter d'un instrument à l'autre sur la scène et plein d'énergie et d'inspiration, il suit ses impulsions musicales où qu'elles le conduisent. Sa musique n'est pas faite pour ceux qui ont les oreilles paresseuses. Dans une même chanson, il lui arrive de passer d'un frevo joyeux, joué par des cuivres et des guitares, à une toada monotone et douloureuse à l'accordéon, qui se transforme ensuite en un mélange chaloupé de chachado et de machiche. Il se plonge ensuite dans un interlude de free jazz au piano pour finir par un dialogue délirant entre une quick et un saxophone. Comme Gigmonti, Pascual a un talent incroyable de créateur de son nouveau. Mais tandis que Gigmonti crée plutôt en jouant des instruments conventionnels de façon inhabituelle, Hermeto a tendance à exploiter les objets banals du quotidien pour en faire des instruments. Il parvient à tirer des sons intéressants de casseroles, de jarres, de machines à coudre, de tout ce qui lui tombe entre les mains. Pour sa composition « Tiruliruli », en 1984, il prit une phrase d'un commentateur sportif qui parlait d'un match de football, la répéta encore et encore en y ajoutant graduellement de plus en plus d'ornementation à l'harmonium et créa ainsi une œuvre bizarre mais séduisante. Dans l'univers d'Hermeto, chaque chose possède un potentiel musical. Le batteur et percussionniste Ayrto Morel l'appelle « le musicien le plus complet que j'ai jamais rencontré de ma vie, un génie ». C'est Brasil Alto Astral sur Aligre FM. J'ai envie qu'on passe un deuxième morceau de Hermeto Pascual. Là, je m'adresse à Fred. Vous, Nawal Karoum, vous connaissez moins la musique que Fred Lira.
On est d'accord.
Il faut dire, là, on est vraiment au niveau expert. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant, Fred?
Et maintenant, c'est Suite Mundo Grande. C'est un des morceaux favoris à moi depuis quelques années. De mon album favori aussi, qui s'appelle « Son on toque à qui n'en quer », ce ne joue pas, ceux qui ne veulent pas », quelque chose comme ça.
Ouais.
De 87, celui-ci. Donc, le premier album qu'il sort après la redémocratisation du pays. Donc, il a un peu cet esprit de futur, d'avenir. Et je pense que c'est l'album le plus complet, dans le sens où il y a vraiment des morceaux... qui vont dans plusieurs directions. Bon, après le morceau, je commente un peu ce trululululi, et j'ai une autre suggestion pour les auditeurs, aller
oui.
voir YouTube, mais ça, je
ah
parle
oui.
après.
Et alors, une question, parce okay. que moi, il me semble que, là, vous avez parlé de la fin de la dictature, donc c'est 1985, oui. donc là, on était à nouveau dans un espace démocratique, mais il me semble que Hermeto Pascual n'est pas politisé, ou est-ce que je dis une bêtise?
Bêtise, ça serait exagéré. Moi, je pense qu'il est très politisé à sa façon. Il était très politisé à sa façon.
Ah,
on
oui?
pourrait aller très loin dans ça.
D'accord.
Je pense que par rapport à la profession, disons, de musicien, comme une classe de travailleurs, on oublie ça, les musiciens sont d'abord des travailleurs, il avait une position assez radicale qui s'est développée assez tôt, c'est-à-dire aux années 60.
D'accord.
Déjà, de comment se tenir, comment moi, un instrumentiste, je me positionne dans ce pays qui, à la fois, il a une musique instrumentale très complexe, très riche, quoi, qui vient de loin, de Shaw, qui est une musique populaire, mais aussi qui est un pays où il y a beaucoup de chansons, de chanteurs, c'est ceux qu'il a très connus.
Ouais, ouais.
Donc, comment moi, en tant qu'instrumentiste, je me positionne par rapport à ça. Donc, disons, dans le monde de la musique, il a un peu ça. Mais aussi, je dirais que, de manière indirecte, il a une position politique assez marquée. Par exemple, il a tout de suite donné ses droits, il a ouvert la main sur ses droits d'auteur très tôt, il a 20-30 ans. Il a dit, moi je veux pas, tout le monde peut reproduire ma musique,
ah.
donc c'est libre. Je m'en fiche de ça, la musique c'est faite pour jouer. Et il fait des comparaisons assez curieuses, assez subtiles.
D'accord.
Il dit, moi si j'étais un scientifique et j'étais dans un laboratoire et je faisais quelque chose comme la découverte du cancer. Moi si c'était moi Hermeto le scientifique, je sortirais dans la rue et je crierais à tout le monde comment on fait la cure du cancer pour que ce soit démocratisé et libre
ouais.
pour tous. Or, ce qui se passe, c'est l'inverse. On ferme dans des boîtes pour vendre
ah bah oui.
pour très cher.
Il y a des brevets.
Et donc, pour lui, il y a pas mal de passages
D'accord.
qu'il fait d'un côté à l'autre. Quand il fait des comparaisons, moi, en tant qu'artiste, je voulais être dans un monde libre. Malheureusement, je dois travailler, je dois payer mes loyers, etc. Mais j'aurais bien aimé que tout ça soit vraiment libre. Et il fait des comparaisons entre les scientifiques, entre les politiciens, entre donc c'est beaucoup plus subtil que donc il n'est pas politisé dans le sens il ne va pas sortir dans la rue pour faire des manifs pour Lula ou faire la grève comme hier, mais il avait dans un sens il était plus radical que ça.
D'accord.
Je dirais.
Bah votre éclairage est intéressant parce que on peut faire pourquoi pas un parallèle avec Tonzé qui est un autre musicien à peu près de la même génération. Qui lui aussi expérimente, aime bien utiliser des robots mixeurs, des cireuses, des perceuses pour construire sa musique et qui lui est vraiment très politisé, qui a des idées fixes, qui voilà. Bon, votre éclairage est intéressant. Là, on est vraiment niveau expert. Cette émission ne s'adresse pas à des débutants en matière de musique brésilienne. Votre second choix, donc, Fred.
Switch
Muito Grande. C'est Brasil Alto Astral.
Essa seca danada me leva sempre pela estrada de terra quente para encontrar minha gente. Mesmo com sede e tudo, eu dou pra ele um pedacinho de mandacaru bem verdinho e o bichinho fica bem tinindo. Mas fica tinindo o bichinho, viu? Meu jumentinho
Brésil, Alto Astral sur Aligre FM. Nous sommes en direct jusqu'à midi avec l'association Autre Brésil. C'est le choix de Fred Lira. Est-ce que vous voulez bien désannoncer, s'il vous plaît, Fred?
Oui, il s'appelle Suite Mundo Grande. Donc c'est un morceau de Sonotoca Kenoka. Et si pour le public qui veut réécouter ce morceau sur YouTube ou les autres plateformes, le motif de la composition, elle tourne autour de l'âne, jumento en portugais. Donc, i-on. En gros, il fait des variations autour de cette cellule. Si vous réécoutez avec attention, vous allez voir que c'est tout le morceau pendant ces presque 4 minutes. Il tourne autour de cette idée. Parce que Hermet était aussi, au lieu de en plus de la question politique, il était très... Ben, aujourd'hui, c'est plus clair ça, mais il était très en avant-garde dans les questions écologiques de la nature. Donc, d'accord. Dès le début de sa carrière, il a des liaisons avec les animaux. Ah. Il a des morceaux autour de coq, de porc, du perroquet.
D'accord.
Qui met soit des variations comme celles qu'on va écouter, ou sinon il met même le son du perroquet en temps de parler, ou du coq, tout ça, qui rentre dans la composition. Et un de ses derniers albums, c'est celui que j'ai entendu en premier, il y a une vingtaine d'années, un peu plus, s'appelle Mundo Verde Esperança. C'est Monde Vert Espérance. Donc il a ce côté un peu utopique aussi, qui tourne autour de la nature, dès les années 60.
Alors, je termine la lecture de ce chapitre consacré à la musique instrumentale et au jazz brésilien. Hermeto fut un enfant musicalement prodige. Il commença avec la flûte et à l'âge de 7 ans apprit à jouer de l'accordéon. À 11 ans, il jouait déjà dans les forrós de la région aux alentours de Arapicara. Quand il avait 14 ans, sa famille déménagea à Recife et Hermeto commença à gagner de l'argent en jouant pour des programmes de radio. Il déménagea à nouveau à l'âge de 16 ans pour Caruaru, également dans le Pernambouc, une ville réputée pour sa musique régionale. Là, Hermeto joua de l'accordéon dans des radios locales et dans des bals et retourna à Recife quelques années plus tard. Il avait beau être autodidacte, Hermeto n'en continua pas moins sa formation musicale à une cadence élevée. Il apprit ensuite le piano et divers instruments à vent de percussion. Il voyagea dans le sud du Brésil et réussit à gagner sa vie en jouant toutes sortes de musiques à Rio, à Sao Paulo, à la fin des années 60 et à la fin des années 50 et au début des années 60.
Artiga, uma paixão nacional como Jorge Benjor.
Considero você merece uma cerveja. Nesse calor você merece uma Antártica.
Melhor pra você.
Nesse verão você merece uma cerveja. Nesse calor você merece uma Antártica.
C'était notre hommage au multi-instrumentiste de génie, Hermeto Pascoal. Vous écoutez Aligre FM. Je suis avec Nawal Karoum, présidente de l'association Autre Brésil, et Fred Lira. C'est la 21e édition. Autre Brésil est une association basée en France qui décrypte un petit peu la société brésilienne au-delà des clichés que nous avons tous, futebol, carnaval et feijoada, et samba à tous les étages, qui existent, hein, qui sont très sympathiques, qu'on aime beaucoup. Donc l'activité, vous me corrigez si je dis des bêtises, Nawal, consiste à traduire en français des articles issus de la presse brésilienne, et tous les ans, vous organisez le festival Brésil au mouvement, où c'est toute une série de documentaires, de débats, de rencontres. Est-ce que j'ai bien résumé un petit peu la vocation de l'association Autre Brésil ?
Oui, tout à fait. C'est une association qui a été créée il y a un peu plus de 20 ans par des journalistes franco-brésiliens, brésiliennes, avec cette idée de rendre accessible à un public francophone une information diversifiée et qui traduise la diversité du Brésil ou des Brésils, comme on aime à dire, puisque Autre Brésil, le nom de l'association s'écrit et se pense au pluriel.
On est d'accord.
Et effectivement, il y a pas mal d'activités, mais cette activité de traduction, c'est la première. Mmh. Et puis, il y a cette activité, ce festival de cinéma documentaire dont on est actuellement en train de vivre la 21e édition, qui est un petit peu la vitrine, on va dire, de l'association et l'événement qui nous permet de toucher le public le plus large en tout cas à Paris.
Alors, ça a commencé hier avec une œuvre de fiction, Les Voyages de Thérèse, en présence du réalisateur. Et ce soir, à 17h, le réalisateur, Gabriel Mascaro, donne un masterclass. Ça se passe donc à la Sorbonne, à la salle des actes. Je rappelle le thème un petit peu du film, c'est une fiction, là c'est la seule hein, fiction, après ce sont des documentaires, c'est le gouvernement brésilien qui impose l'exil aux personnes âgées. Donc ça c'est en accès libre ce soir à 17h. Et ce soir, il y a un documentaire « La science pour cible » à 20h. Et à l'issue de la projection, il y aura un débat avec la chercheuse Larissa Bombardi. Ce film retrace comment 4 scientifiques brésiliens ont été entravés, persécutés et menacés dans le cadre de leur recherche. Ça, évidemment, avalanche de fake news, risque pour, on va dire, la défense du savoir. Là, on est vraiment dans le réel, on n'est plus du tout dans la fiction, on est d'accord, hein.
Ah oui, là, on est dans le réel, dans la vérité qui est attaquée, justement, dans les attaques et les persécutions que peuvent vivre ces scientifiques, mais aussi, en fait, les attaques contre leur travail, contre l'idée même de vérité, de fait. Et c'est quatre personnes que l'on suit dans leur parcours, qui travaillent sur des sujets extrêmement variés. Donc on a effectivement Larissa Bombardi qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là ce soir, qui elle travaille sur les pesticides et évidemment toutes les conséquences néfastes, que ce soit pour l'environnement ou la santé des personnes, et qui sera là ce soir et qui sera là aussi pour présenter son ouvrage, son livre qu'on vous conseille, qui s'intitule « Un colonialisme chimique » qui a été traduit aux éditions Anacaona en français.
On va juste rappeler que le Brésil est un des plus gros utilisateurs de pesticides et d'OGM dans le monde. Hein. Donc l'agriculture brésilienne est performante certes, mais elle n'est pas sans poser de problèmes.
Hein. Ah oui, bien sûr. Et il y a beaucoup d'hypocrisie en fait, y compris entre l'Europe, au sein de l'Europe, puisqu'il y a des produits qui sont interdits dans l'agriculture en Europe, qui sont, cela dit, produits en Europe, exportés au Brésil, utilisés dans l'agro-industrie brésilienne pour qu'on ensuite on réimporte ces produits alimentaires en Europe. Donc oui, bien sûr, c'est un sujet d'ampleur au Brésil, que ce soit pour les conséquences environnementales ou sanitaires. Mais dans ce film, il n'y a pas que Larissa, il y a aussi des scientifiques qui travaillent, que ce soit sur les questions d'avortement, qui ont travaillé bien sûr sur...
Pardonnez-moi, qui est toujours interdit au Brésil, hein, l'avortement?
qui est toujours interdit au Brésil et qui est menacé dans beaucoup d'endroits, effectivement. Mais aussi pendant l'épidémie de Covid. Et on sait que ça a été, je ne sais pas si Fred voudra en dire un mot, mais ça a été quand même une gestion assez catastrophique par le gouvernement Bolsonaro, qui a quand même causé la mort de milliers et milliers de personnes au Brésil. Donc,
et merci le Venezuela d'avoir envoyé des bouteilles à oxygène en Amazonie aussi. Hein. Ça, pour les gens d'extrême droite, ça a du mal à passer, hein. Que ce soit le Venezuela qui vienne au secours de... Pas de tout le Brésil, mais en Amazonie, là, il y avait vraiment un foyer absolument... c'était dramatique.
En particulier, les peuples autochtones ont été les premières victimes de cette non-gestion criminelle. Mais effectivement, ce film, La science pour cible, Ciencia na mira, de Rafael Figueiredos, il est très important, il est très intéressant et je pense qu'il est aussi très utile pour penser ce qui se passe pas qu'au Brésil. En réalité, les attaques contre la science...
Bien sûr.
Elles ont lieu à l'échelle planétaire, on le voit aux États-Unis.
Il y a une mauvaise nouvelle qui défrise le président Trump, il limoge la personne qui est chargée de soumettre des rapports sur le plan de l'environnement, etc. Ouais, complètement.
Tout à fait.
Donc quatre chercheurs qui ont été persécutés, menacés, il n'y a pas d'autre mot, donc ça c'est ce soir. Alors le festival se tient au cinéma Les Sept Parnassiens, boulevard du Montparnasse, on est d'accord. Et puis samedi... demain à 18h, Chanson d'exil. C'est un documentaire qui retrace le parcours de deux personnages politiques, Marcia Tiburi et Jean Willis, qui ont fui le Brésil pendant le gouvernement d'extrême droite de Jair Bolsonaro parce qu'ils craignaient pour leur intégrité physique.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Tout à fait. Ça, c'est un documentaire donc, de Dado Amaral qui nous fera aussi le plaisir d'être avec nous suite à la projection pour débattre avec le public. C'est un documentaire beaucoup plus intimiste et qui retrace en fait l'amitié de ces deux personnes et à quel point elle a été ressource pour elles dans leur expérience de l'exil, effectivement sous le gouvernement Bolsonaro, à travers des lectures de lettres
ouais.
qu'ils et elles se sont écrits. Et c'est un très beau documentaire, très touchant, qui parle autant de l'exil que de la situation politique au Brésil, mais qui parle aussi beaucoup d'amitié et donc qui fait du bien. Je pense qu'on a la chance d'avoir une projection qui nourrit aussi.
Jean Willis était un homme politique qui était ouvertement homosexuel. Donc, il a commencé à recevoir des menaces. Par contre, je ne sais pas qui est Marcia Tiburi.
Elle est encore. Elle est rentrée. Elle est une prof de philo, assez populaire, disons, philosophique pop. Elle a du grand public. Et aussi, à cette époque-là, 16 ou 18, je ne sais plus exactement. Je pense que 18 exactement. Aux mêmes élections de Bolsonaro, elle a été candidate à gouverneur de l'État de Rio par le PT, à travers le PT.
Le Parti des Travailleurs.
Et bon, elle a perdu, bien sûr, et elle a été beaucoup exposée. Elle avait un public au-delà de l'université en tant que philosophe, en tant qu'intellectuel public, mais au moment où elle se lance comme candidate, elle devient vraiment... tout le monde la connaît, quoi. Et là, elle a commencé à être menacée, persécutée en ligne. Et aussi, elle a eu des trucs, des chez elle, où elle a des suspicions. Et elle a réussi à venir. Elle a resté à Paris pendant tout le gouvernement Bolsonaro. Elle a enseigné pendant un certain temps à l'Université Paris 8.
D'accord.
Avec des activités ici. Voilà. Donc,
oui, Nawel.
Oui, non, ce que je voulais juste rajouter dans ces deux, que ce soit La Science pour Cible ou Chanson d'exil, on voit vraiment ce que ça veut dire aussi, ces persécutions à l'échelle de vie humaine. Donc c'est cette dimension intime très forte. Et ce film, effectivement, vous parliez de Jean Willis, il était important pour nous. Cette édition, elle est un peu spéciale, cette 21e édition. Elle a lieu dans le cadre de la saison...
du Brésil en France.
Exactement. Et elle est un petit peu plus resserrée que nos éditions habituelles en temps. Oui. Donc on avait moins de projections et donc il a fallu aussi... on n'a pas pu aborder avec autant d'amplitude qu'on le fait généralement l'ensemble des thématiques engagées sur lesquelles...
Pour quelle raison ?
Alors c'était faute de ressources, je dirais, parce que du coup cette saison fait qu'on a démultiplié nos activités. Et que donc on s'est concentré avec seulement 4 séances. Donc on n'a pas de films comme on a très souvent qui traitent directement des questions de racisme ou de violences policières ou des violences contre les communautés LGBTQIA+. Mais c'est vrai que du coup de pouvoir aussi parler de cette persécution qu'a subi Jean Willis aussi en tant que figure de cette communauté-là, c'était important pour nous.
Ouais, et à l'époque, Jean Willis, quand il était ici en Europe, à un moment en France, après en Allemagne, après en Espagne, il était très proche de l'autre Brésil aussi. On a fait pas mal d'activités avec lui, on a fait des débats, on a fait aussi des débats avec Marcia Tiburi, on a fait plusieurs événements avec eux aussi, donc à cette époque. Donc c'est aussi important ça fait partie aussi de l'histoire de l'association. Et en plus, pour ajouter, il a eu en juillet, ou c'était juin, où on a fait au Théâtre de la Concorde. Avril et juin, où il a eu d'autres projections de films. Donc en fait, c'est comme si ce festival Ben, il s'étendait un peu dans l'année.
Donc ça, c'est demain à 18h, Chanson d'exil. La semaine dernière, on a fait un hommage à Angela Roró, la chanteuse carioca qui nous a quittés. Et j'ai annoncé la condamnation à de la prison ferme de l'ancien président Jair Bolsonaro à plus de 27 ans de prison. On a appris il y a quelques jours que Jair Bolsonaro est atteint d'un cancer. Il a été hospitalisé. Vous, quand vous regardez dans le rétroviseur, Fred et vous, Nawal, et que vous vous souvenez qu'en 2002, il y a eu un gouvernement de gauche avec Lula. Ensuite, il y a eu Dilma Rousseff. Ensuite, il y a eu 4 ans de Bolsonaro qu'on ne connaissait pas. Et puis... on va dire qu'a divisé le Brésil en deux, et qu'aujourd'hui, il est condamné à de la prison ferme. Enfin, je pense que si on avait écrit il y a 30 ans un scénario qu'on avait envoyé au studio d'Hollywood comme présentant une fiction, ils auraient dit non, mais là vous délirez, les Brésiliens, jamais de la. Enfin, j'ai l'impression que ça dépasse la réalité, que ça dépasse la fiction. Qu'est-ce que vous en pensez, Fred ?
Je suis d'accord que ça dépasse un peu la fiction. C'est un vrai problème esthétique, en fait, même. On peut aller loin.
Esthétique ?
Ouais, parce que c'est difficile de faire de la fiction. C'est vrai. On a vu le film d'hier, Le Voyage de Thérèse. C'est entre une fiction, le réalisateur présente comme une dystopie, mais en fait, moi, je l'interprète plutôt comme une allégorie de quelque chose qui est déjà présente, avec des variations.
Sur l'exil forcé, je rappelle, des personnes âgées.
Ouais, c'est un peu plus complet. Bon, on ne va pas entrer, sinon on va aller trop loin. Mais donc, des choses sont simples. C'est un vrai problème pour les artistes de faire de la fiction. C'est pas par hasard que les grands écrivains de l'époque, comme Annie Ernaux, au Brésil, ils font de sorte d'autobiographie. Donc, c'est un vrai problème. Parce que, exactement, la réalité, elle est en train de dépasser à plusieurs niveaux ce qu'on imagine. Et elle va très vite, parce qu'au Brésil, juste au Brésil, si on imagine qu'est-ce que c'était la semaine dernière au monde, il y a eu la chute du gouvernement en France, attaque d'Israël au Qatar, la guerre de l'Ukraine, elle continue. Les États-Unis, il y a eu l'assassinat de gars d'extrême droite.
Ouais.
Au Brésil, la condamnation de Bolsonaro. Ça, c'est 5 pays. Il ne faut même pas aller au reste. C'est juste les trucs extrêmes.
Et sans compter les informations qui n'arrivent pas jusqu'aux oreilles. Mais c'est vrai que
donc, on ne peut pas accompagner. Ouais, la réalité, elle est beaucoup plus... Bon, on ne voit pas un flot, mais ça, c'est un data important. Et déjà, cette semaine, le Parlement est en train d'essayer de faire des nouveaux complots pour essayer d'innocenter Bolsonaro ou essayer de faire des choses.
Il joue encore.
Il a encore des recours.
Oui,
donc c'est pas...
Mais il faut préciser que le Parlement n'est pas du côté de Lula. Lula n'a pas la majorité au Parlement. Le Parlement est majoritairement de droite.
Oui, majoritairement de droite. Et depuis un moment, donc vous avez annoncé Lula, Dilma, Bolsonaro... Mais entre les deux, il y a le gouvernement Temer, c'était le vice de Dilma pendant 2 ans et demi.
Parce qu'elle a été chassée du pouvoir, absolument.
L'année prochaine, ça va être 10 ans de la destitution de Dilma. C'est un moment très important. Et ce gouvernement de Temer, c'est où il y a une sorte de renversion de la pratique, dans le sens de comment on la pratique, mais aussi de l'institutionnalisation. Au Brésil, c'est-à-dire que lui, il était un homme du Parlement, c'était un député historique, et du coup, pendant son gouvernement, il a eu beaucoup de changements dans le fonctionnement du Parlement brésilien, et il s'est automatisé, donc il est devenu beaucoup plus autonome, donc on peut pas, il est de droite, ça c'est sûr, mais il n'est pas forcément Bolsonaro, il a sa propre logique, parce que chaque député aujourd'hui, avant, il y avait, par exemple, un parti ou des groupes, et l'argent, il allait à ce parti, disons le PT, par exemple, parce que ça marche aussi à gauche. Le PT, donc le Parti du Travail, le Parti de Lula. Il avait un certain budget qui était destiné au parti, et qui allait destiner à faire son propre projet, ses lois, etc. Aujourd'hui, c'est comme si chaque député, c'est-à-dire plus de 500 députés, ils avaient eux-mêmes leur propre budget. Donc moi, je suis député, je viens de Recife, j'ai mon propre budget à moi, disons...
Budget individuel, on va dire.
Budget individuel, et moi, je vais directionner. Donc je deviens une sorte de parlement gouverneur à la fois, où je peux distribuer dans ma base à Recife, créer des médiations. Donc ça, c'est multiplié par 500.
Ouais.
Et ça, c'est arrivé pendant le gouvernement Temer.
D'accord.
Donc même Bolsonaro, qui c'est un peu le démon en personne, même lui, il n'avait pas le contrôle du Parlement. Le Parlement, il devait négocier parce que c'était pas... Donc, c'est beaucoup plus complexe aujourd'hui, le pays. Donc, ça, d'un côté. Et de l'autre, c'est vrai que le jugement, même si après, il va avoir des recours, il est malade, peut-être il va mourir avant d'aller en prison, c'est jamais, est possible. Bon, tout est, comme on vient de dire, dans une semaine, plein de choses peuvent se passer. Donc. Mais le fait qu'il a été jugé pour un coup d'État, c'est très symbolique. Très, très symbolique. Et pas que lui. Lui, c'est la cerise, c'est les généraux. Les généraux.
Il n'y a pas que Bolsonaro, vous avez raison.
Les généraux, plus.
898. Il y a 898 personnes qui ont été condamnées depuis le 8 janvier pour des actions liées au 8 janvier. Mais le 11 septembre, c'est Bolsonaro et sept autres généraux.
C'est ça le plus important, même plus que Bolsonaro, c'est les généraux. Parce que les généraux, disons, l'armée brésilienne, elle a un rôle, disons, l'armée française, elle a été créée, institutionnalisée avec Napoléon pour des guerres révolutionnaires, après, jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est une armée pour la défense et pour l'attaque extérieure. Oui. L'armée brésilienne, à l'origine, qu'elle a été plus ou moins créée à l'indépendance, à partir de 22, il y a un premier corps armé, et qui, elle est avant tout, sauf une situation, on peut détailler, que c'est un génocide. Le Brésil est un pays génocidaire, il a presque détruit le Paraguay. Donc c'est la guerre du Paraguay.
Surtout
l'armée brésilienne, ils ont tué plus de la moitié de la population paraguayenne. Le Paraguay a pris 100 ans pour revenir à la population de 1760, quelque chose.
La population a été décimée.
Oui, décimée. C'était un massacre absolu, commandé par le Brésil.
C'est ce qu'on appelle le Riachuelo. C'est la bataille du Riachuelo.
C'est une des batailles.
D'accord.
Ouais. Mais ils ont l'armée, sauf cet épisode génocidaire, l'armée brésilienne, elle a une armée interne, contre l'ennemi interne. Et l'ennemi interne, c'est tout le monde, quoi. C'est les Indiens, c'est les Quilombolas, c'est les Kangas,
les minorités.
Aujourd'hui, c'est le crime organisé, ouais. Entre guillemets. C'est le MST, c'est la gauche radicale, c'est la lutte armée, c'est tout. Tout le monde, c'est ennemi interne. Et la République, elle a été, en 1889, elle a été déclarée par les militaires. Donc, à l'origine de la République, bon, c'est comme De Gaulle. Hein. De Gaulle, la 5e République française, c'est aussi
un militaire,
ouais. On oublie ça. Mais bon, 1889, c'est les militaires. Et depuis lors, eux, ils donnaient une sorte de lettre. Ils étaient une sorte de pouvoir extérieur. Ils s'imaginaient comme un pouvoir extérieur médiateur, disons.
Ouais.
Parce que ça existait à l'époque de l'Empire brésilien. Il avait le pouvoir médiateur. C'était l'empereur. Donc je suis l'empereur, j'ai le pouvoir médiateur. Et l'armée, elle se sentait comme héritée de ce pouvoir médiateur. Mais que sept généraux importants qui ont travaillé dans le gouvernement Bolsonaro, qui étaient des ministres, qui ont commandé des missions au Brésil comme général Helen, qui est un génocidaire, un assassin, hein, parce qu'il a été un des commandants de la mission brésilienne à travers l'ONU, d'occupation de l'Haïti. Parce que
mais là, c'est quand
Au début des années 2000. Pendant le gouvernement Lula, il a eu la mission MINUSTA, où l'armée brésilienne elle a organisé l'occupation humanitaire, l'intervention humanitaire qu'on appelle.
La crise.
En Haïti, oui. Ouais. Sauf que l'armée brésilienne, comme elle sait bien gérer les questions humanitaires, elle a commis des assassinats absolus tous les jours, quoi. Donc, Hélène, il a tué des centaines de personnes, commandé l'assassinat des missions. Bon, c'était la guerre.
En Haïti,
d'accord. Oui. Et ces généraux, après, il a été un des penseurs de la montée de Bolsonaro dans un président. Ils ont organisé, c'était très organisé par l'armée. Et il a été un des ministres du gouvernement Bolsonaro, Hélène. Et lui aussi, il a jugé. Donc, c'est un généraux qui a toute cette carrière, d'accord. Cette très belle carrière. Et lui, il a été jugé. Et donc, ces personnages qui ont été jugés, ils sont aussi importants que Bolsonaro.
Oui.
C'est un généraux, et ça, jamais auparavant. Et ça, si vous voulez, le truc plus fictionnaire, moi, si j'ai 30 ans, j'étais trop jeune, mais disons 20 ans en arrière, j'aurais parié 20 000 euros avec toi facilement, que jamais un généraux aurait été jugé au Brésil.
Alors
et là,
ça,
il a jugé.
Est-ce que ce n'est pas un signal positif? Je vais vous laisser la parole, Nawel, mais... Ça veut dire qu'il y a quand même une justice indépendante au Brésil et qu'on ne peut plus avoir il n'y a plus d'impunité, quoi. La justice a fait son... Adam, vous êtes d'accord, Nawal ?
Non, mais je pense que c'est un peu une réponse en deux temps. Je crois que c'est une décision historique. Elle est historique pour le Brésil et c'est une leçon de démocratie et d'indépendance, notamment vis-à-vis des États-Unis, que donne le Brésil. Qui est bonne à entendre, hein, y compris pour nous, où on a des ministres qui peuvent nous expliquer que l'état de droit, c'est superflu. Donc oui, c'est une décision historique, cette décision donc, de la première chambre du tribunal fédéral du 11 septembre dernier. Effectivement, l'actualité, elle est telle qu'on en a peu entendu parler par rapport à l'importance de cet événement, il me semble. Et comme le disait Fred, c'est pas seulement Bolsonaro, c'est 7 autres généraux. C'est aussi une décision symbolique, parce que derrière, c'est aussi l'histoire de la dictature et les liens de toutes ces personnes avec la dictature, une dictature qui, de laquelle est sorti le Brésil sans justice, sans que justice soit rendue. Et donc, on en arrive à la question de l'amnistie. Donc oui, c'est énormément d'espoir, c'est une décision qu'il faut fêter, il faut se nourrir, de se remplir de joie militante de ces victoires, se rappeler que il faut rien lâcher et que ça marche.
Ouais.
Et l'importance de la démocratie institutionnelle lorsqu'elle fonctionne bien. Cela dit, il y a quand même un projet de loi d'amnistie. Donc, c'est pas gagné non plus. Il faut encore rien lâcher.
Ouais.
Ça, c'est un projet de loi qui est dans les tuyaux depuis plusieurs années. Puisque comme
je trouve que la presse française n'en a pas tellement parlé de ce projet de loi.
C'est très complexe.
Hein. On a parlé des manifestations de soutien en plaidant pour l'amnistie qui ont été organisées au Brésil, mais pas tant de ce projet de loi, il me semble. Hein.
En fait, peut-être Fred, tu pourras compléter avec plus de précision, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a déjà eu presque 900 personnes qui ont été condamnées depuis... janvier 2023 pour des actes commis à cette occasion, pour des peines de prison.
Ouais.
Donc cette rhétorique et cette demande d'une loi d'amnistie, elle est ancienne, elle date de ça.
Ah oui,
par contre,
d'accord.
Là, ça s'est accéléré énormément avec la condamnation de Bolsonaro, une dimension d'urgence, et on a effectivement un projet de loi qui a été présenté et accepté, qui est discuté au Parlement, qui viserait à... offrir une amnistie pour tous les actes commis depuis le 30 octobre 2022 jusqu'au moment où cette loi pourrait être adoptée. Pour l'instant, il est en discussion au Parlement. Lula a indiqué qu'il mettrait son veto si jamais le Parlement votait, sauf que si Lula met son veto, derrière, ça revient au Sénat et il y a quand même la possibilité que le Sénat valide cette loi. Donc il y a quand même besoin...
C'est quand même délirant.
C'est complexe, c'est pas encore gagné. C'est une étape essentiel, historique, mais ça veut dire qu'il y a un enjeu aussi pour toutes celles et ceux qui se revendiquent d'être des défenseurs et défenseuses de la démocratie, de l'état de droit, partout, de soutenir aussi les mobilisations, de faire entendre et de garder cette pression, parce que de l'autre côté, nos adversaires politiques d'extrême droite, à commencer par le gouvernement de M. Trump, n'hésitent pas à faire pression en soutien à Bolsonaro.
Oui. Ah oui, voilà. D'une manière tout à fait assumée.
Et c'est une multitude, peut-être juste rajouter par rapport à ce que tu disais, c'est une multitude de crimes qui ont été reconnus. Hein. C'est l'organisation criminelle, condamnée pour crime d'abolition violente de l'état de droit, pour coup d'état, pour détérioration de biens protégés, pour dommages avec violence. Donc c'est quand même... costaud,
oui,
c'est
oui.
Ce travail de la justice brésilienne.
Oui, il a contesté son échec à l'élection présidentielle. Il a essayé de se maintenir au pouvoir par la force. Oui, il a un certain nombre de casseroles. Nos invités, Nahual Karoum, président de l'association Autre Brésil, et Fred Lira, vous écoutez Aligre FM. Vous proposez donc, ça a commencé hier, la 21e édition du festival Brésil en mouvement. Alors, on peut adhérer à l'association Autre Brésil pour 15 euros par an. Ça nous permet déjà de vous aider un petit peu dans votre fonctionnement au quotidien et puis de bénéficier de tarifs préférentiels sur les manifestations que vous organisez. Quelles sont précisément, Nahual, vos sources de financement? Comment est-ce que vous arrivez à fonctionner?
Je dirais que notre premier carburant, c'est les bonnes volontés. Mmh. ça reste une association, une petite association, qui est un peu comme beaucoup d'associations, en fait, entre deux. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement un collectif 100% bénévole, puisqu'on a régulièrement une ou un salarié, éventuellement des personnes qui peuvent nous soutenir dans le cadre de différents contrats. Mais on est encore une toute petite équipe, au sens où on n'arrive pas encore, et on espère pouvoir le faire bientôt, à pérenniser ne serait-ce qu'un poste de salarié en CDI. Donc on est un peu dans cet entre-deux. Et nos principaux soutiens, c'est des fondations publiques et privées, diverses et variées. C'est effectivement les adhésions, même si effectivement le montant est assez bas et c'est pas... c'est pas forcément la première source de financement. Dans le cadre de la saison France-Brésil, on a aussi bénéficié des financements de l'Institut français et d'entreprises publiques brésiliennes qui financent la saison, donc de ce financement-là. Mais sinon, on a un certain nombre de partenaires. Bien sûr, la mairie de Paris qui nous soutient depuis longtemps aussi, et des fondations et associations amies comme le CRID et bien d'autres.
Pendant les 4 ans du gouvernement Bolsonaro, on vous a un petit peu fichu la paix ou parce que vous n'avez pas... Vous n'avez pas reçu d'ordre de Brasilia. Est-ce que vous arrivez à fonctionner d'une manière totalement indépendante?
Oui, alors je pense qu'en 20 ans, vu, comme le disait Fred, les changements dans la politique brésilienne, effectivement,
vous avez un peu tout vu,
Il y a eu une énorme mobilisation au moment de... Bah, peut-être t'en parleras mieux que moi, Fred, en plus,
que
t'étais là.
Ce qui est... Bon, j'ai rentré en 2017, donc après exactement l'impeachment, le coup d'État contre Dilma.
C'est au moment où j'ai... La destitution. Vous dites coup d'État?
Ouais, ça dépend.
Non, mais
ça,
là,
ça
on
change.
Peut faire une heure et demie d'émission. Excusez-moi, je retire ce que j'ai dit.
Ça peut. Ouais.
Coup d'État parlementaire.
Ça
nous va.
Destitution. Bon.
On va juste rappeler que Dilma Rousseff, c'était la présidente et elle a été destituée parce qu'elle était impopulaire. Ça, c'est quand même merveilleux.
C'est une version.
Ouais.
Mais bon. Parce que si c'était que ça, le président d'après, Temer, à un moment donné, il avait 1% d'approbation. Donc, c'est pas en popularité, ça fait pas toujours chuter les gens.
C'est vrai.
Si t'es pas populaire avec la population, mais t'es populaire au Parlement, c'est tant mieux pour toi. Donc, c'est pas important. La population, on s'en fiche un peu.
Ouais.
À la limite. Ouais. Au moins jusqu'à la veille de l'élection. Mais bon, la question, c'est... Je pense que au Brésil... Bon, j'ai entré en 2017, donc...
En 2017, vous adhérez à l'association.
Vous entrez activement.
Membre du conseil d'administration.
Ouais. J'ai oublié même mon poste parce que j'ai jamais été président, je ne serai jamais président. Je suis trop anarchiste pour ça. Mais je pense qu'il faut voir que si vous allez au site, par exemple, dans les traductions anciennes, ça m'a toujours impressionné dans les vieux fondateurs, c'est qu'ils avaient une posture très critique déjà au gouvernement Lula, au début des années 2000, contre le gouvernement Dilma. Il n'a jamais été exactement pour le gouvernement, il supportait ce qui était intéressant, mais il était critique aussi. Comme on est critique aujourd'hui aussi. On essaie d'être critique dans cette situation chaotique.
Ça relève de l'honnêteté intellectuelle,
être contre le gouvernement Bolsonaro, c'est trop facile.
Oui.
Mais aujourd'hui, c'est plus complexe. Et si vous voulez, par exemple, il y a un dernier film qu'on n'a pas parlé, c'est le dernier film de demain.
Alors, c'est Impact de Sergio Di Carval, donc ce sera à 20h demain. Ouais. Et là, on est dans le nord,
on est en Amazonie avec les
Seringueiros, ceux qui récoltent les VA.
On va parler très vite, je pense.
Parce qu'en fait, on arrive au terme de l'émission, Fred.
Donc, c'est un film qui reprend des luttes des Seringueiros avec les locaux contre ceux qui vont essayer de raser les terres de l'Acre, en Amazonie.
C'est l'État de Chico Mendes.
Idir Lamens, qui vient demain comme invité. C'est sa fille qui est une militante de l'Acre très intéressante, un personnage très, très intéressant. Et du coup, c'est une sorte, le nom, juste pour situer, l'impact, c'est une sorte de tactique de blocage. On apprend plein dans cette idée en France de blocage, une sorte de blocage. Comment bloquer la destruction de la forêt avec des tactiques où on se met en danger. Donc, Chico Mendes, devant les tracteurs, il mettait les
comme
enfants...
Comme un bouclier humain.
Oui, un bouclier humain, exactement. Des boucliers humains, et comment ça s'éparpiller. Et avec ça, ils ont réussi à créer un impact, c'est-à-dire égalité. Ni destruction, ni renversement. Donc, c'était une sorte de négociation très risquée qu'il a pu inventer. Et c'est sur ça qu'il parle le film.
Et ça, c'est à 20h samedi, le film de Serge Ducarval. Le festival se tient donc au cinéma Les Sept Parnassiens. C'est déjà la fin de notre émission. J'aurais bien aimé faire 2 heures avec vous. Nawal Karoum, vous êtes présidente de l'association Autre Brésil. Fred Schlier, merci beaucoup. Et merci pour la programmation musicale. On va se quitter avec votre choix, Edbert Kojic-Monchi. Je voulais vous dire que le Carreau du Temple se transforme en grande halle où on va savourer des repas préparés par des chefs. Il y a des ateliers culinaires. faire des produits 100% Brésil. Jusqu'à dimanche, de la musique, de la danse, l'entrée est libre. À midi pile, votre poste de radio vous donne l'heure en switchant automatiquement vers nos amis de Cause Commune, que l'on salue au passage. Les programmes d'Aligre FM reprendront à 17h. Merci à l'aide technique. René Clancy, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Brésil Alto Astral.
Aligre FM 93.1.